Les petits matins, Georges Pop.
Nous sommes le mardi 18 octobre 2011. Tout à l'heure, le soleil sur le plateau va se lever aux alentours de 7h53. Il se couchera vers 18h40. L'obscurité grignote chaque jour quelques minutes, vous le constatez. Le temps, eh bien, il s'annonce bien ensoleillé et doux aujourd'hui avec des températures grimpant jusqu'à 19 degrés à basse altitude. Ce matin, cependant, quelques brouillards vont retarder l'arrivée du soleil jusqu'à la mi-journée. Au-dessus de 800 mètres dans le Chablais et en Valais, le soleil s'imposera plus rapidement. Ce soir, des passages nuageux arriveront par l'ouest. Ils donneront des précipitations en seconde partie de nuit. L'actualité ce matin, l'agence d'évaluation financière Moody's a donné hier un premier avertissement à la France. Elle annonce qu'elle se donne 3 mois pour déterminer si sa perspective stable est toujours justifiée au vu de la dégradation de la situation économique. La France bénéficie actuellement de la meilleure note possible de la part de Moody's avec un triple A. Israël et le Hamas vont procéder en tout début de matinée à l'échange du militaire franco-israélien Gilad Shalit contre un premier groupe de 477 détenus palestiniens. Gilad Shalit est détenu depuis le mois de juin 2006 dans la bande de Gaza. La Cour suprême de l'État hébreu a donné son accord lundi après-midi après avoir rejeté les recours déposés pour contester l'accord qui prévoit au total la libération de 1077 Palestiniens en 2 temps. On apprend d'ailleurs à l'instant que le départ du premier convoi de détenus palestiniens est en cours. Le nouveau pouvoir libyen annonce que ses forces contrôlent désormais totalement la ville de Bani Walid, bastion de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi. Sur place, les combattants tiraient en l'air hier soir avec des armes légères et des armes lourdes pour fêter leur avancée. Ils ont hissé un drapeau des nouvelles autorités sur les bâtiments principaux et sur les mosquées, selon les journalistes sur place. La fortune des 2 fils du président égyptien déchu Hosni Moubarak dans les banques suisses s'élèverait à quelque 340 millions de dollars. Information révélée hier par les autorités égyptiennes. Selon elles, ces fonds représentent la majeure partie des fonds gelés par Berne. La Grèce sera paralysée par une grève générale ce mercredi ainsi que demain jeudi. Les travailleurs grecs protestent contre le vote d'un projet de loi durcissant encore l'austérité. Plus de 400 membres du personnel de la Confédération ont manifesté hier à Berne. Ils demandent une hausse des salaires de 2% et l'arrêt aussi des suppressions de postes au sein de l'administration. Ils s'insurgent contre la motion du président de l'UDC, Tony Brunner, qui veut réduire de 20% le personnel de la Confédération. Pierre Yeni a demandé à Jean-Pierre Monti, qui est président de l'Association du personnel de la police judiciaire fédérale, si de telles restrictions pouvaient menacer la sécurité de la Suisse.
À long terme, je pense que oui, puisque vous connaissez la sensibilité de la sécurité, notre système sécuritaire en Suisse, qui est basé sur l'autonomie et sur la responsabilité des cantons. Il est clair que la Confédération, avec les tâches qui lui sont fixées par la loi, à ce moment-là, si on diminue déjà par le couvercle, si vous voulez, automatiquement, vers la base, il y aurait des répercussions dans l'intensité des prestations de sécurité. Ça, c'est certain. On serait obligé de diminuer à quelque part, je ne sais pas où, pour être un peu provocateur, peut-être au niveau de la lutte contre la pédophilie, je ne sais pas. Hein. Mais vous voyez, il y a quelque part, si vous diminuez, vous devez aussi diminuer vos prestations. C'est dans la vie, c'est comme ça.
Le syndicat Unia s'oppose au projet d'ouverture 24 heures sur 24 des magasins des stations-service. Les délégués de la conférence du commerce de détail envisagent de proposer le lancement d'un référendum si le Parlement devait soutenir cette libéralisation. L'Union européenne de football répond aux exigences du tribunal cantonal vaudois, propose divers scénarios de réintégration du FC Sion en Europa League. L'instance européenne rappelle toutefois que seule une décision sur le fond du tribunal arbitral du sport serait susceptible de permettre aux Valaisans d'évaluer sur le plan européen. Les contrariétés s'accumulent pour Neuchâtel-Xamax. Après l'embarrassante élimination en Coupe de Suisse face à Kriens, le syndicat des joueurs a appelé les joueurs neuchâtelois à la grève en raison des salaires de septembre impayés. On écoute le joueur Bastien Geiger.
Décision, il n'y a pas encore de décision. On verra la tournure des événements et après on discutera entre équipes, mais il n'y a pas encore de choses claires et précises.
Mais c'est possible que Xamax, les joueurs, ne reprennent pas l'entraînement parce que les salaires sont toujours impayés.
C'est possible, mais il n'y a rien d'arrêté et maintenant on fait confiance à nos dirigeants et on attendra mercredi. On verra si les choses ont évolué ou pas. Pour les joueurs et puis pour les autres salariés du club, c'est pas évident. Donc on attend des éclaircissements à ce niveau-là et on verra.
Les adolescentes fans de télé-réalité sont plus enclines que leurs camarades moins passionnés par ces émissions à juger la méchanceté et le mensonge comme de bons moyens pour parvenir à leur fin. Elles accordent en outre plus d'importance à leur apparence. Voilà ce que révèle une étude américaine. Ce sont là les conclusions d'une étude réalisée par la division recherche des scouts féminines américaines auprès de 1141 filles âgées de 11 à 17 ans. Ce n'est pas très rassurant. Il est 5h05.
Sport Matin avec alpha.ch, le portail d'emploi pour cadres et spécialistes.
Sport Matin avec, comme chaque mardi hors cadre, la séance d'Alain Cobel qui reçoit aujourd'hui l'ex-championne de ski alpin Erika S. Raymond.
5 fois championne du monde, 2 fois lauréate du classement général de la Coupe du Monde, 31 victoires en Coupe du Monde, Erika S. a mis un terme à sa carrière de skieuse professionnelle en 1987, à l'âge de 25 ans déjà, mais après 10 ans passés sur le circuit de la Coupe du Monde.
Si on me demande mon plus beau souvenir, j'hésite toujours entre 82 et 87. Évidemment, 82, j'ai fait 3 médailles d'or. À ce moment-là, je ne sais pas si j'étais vraiment conscient de savoir ce que c'était vraiment d'avoir gagné 3 titres. Et puis 87, parce que c'était en Suisse, on a marché très très fort. On a très peu laissé les médailles aux autres nations.
Vous vous rappelez souvent ces magnifiques moments que vous avez connus au cours de votre carrière de sportif de haut niveau. Vous êtes nostalgique ?
Non, pas tellement. Non. Pour moi, ce que je vis maintenant, c'est important. Je suis quelqu'un qui essaye de vivre le moment présent. Et quand je pense à toutes ces années-là, médailles, podiums et tout ça, l'hymne national, c'est des événements qui me rappellent. L'autre jour, on a regardé un match de foot où la Suisse a joué. On écoute l'hymne national suisse. Ça me rappelle les victoires.
Reine des disciplines techniques du ski mondial dans les années 80, Erika S. a connu la gloire, la reconnaissance, mais cela a un prix, le travail, la discipline et beaucoup de sacrifices.
C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire pour arriver au sommet d'un sport comme le ski. À 15 ans, j'étais en Coupe du Monde, donc toute ma jeunesse, elle a passé dans le sport et dans le ski. Est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui? Je ne crois pas, je n'ai pas vécu la même jeunesse qu'un autre vit à son adolescence. Oui. J'étais dans un sport, j'étais cadrée, je m'entraînais, je faisais des courses. Et en même temps, j'avais pas le temps de sortir danser ou sortir rigoler avec des copains ou des copines. C'était une vie qui était très riche, très enrichissante. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde à 15 ans. Et puis chaque année, ça se répétait. J'ai vécu une vie très intense. Et je crois que j'étais plutôt conscient de ce que j'avais et pas de ce que j'avais pas.
Erika S. épouse en 1988 son entraîneur, Jacques Raymond. Ils auront 3 enfants, 3 garçons, si possible sportifs.
Bien sûr, j'avais envie d'avoir des enfants déjà sportifs, ça c'est sûr. J'aurais eu de la peine à apprendre que mon fils, il n'avait pas envie de faire du sport. Mais on a essayé de leur montrer le beau côté du sport. Aujourd'hui, c'est 3 enfants qui sont sportifs. Mais c'est vrai que l'éducation des enfants, ça c'est tout un autre métier. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. C'est un beau rôle quand même de devenir parent, devenir maman, et puis se trouver en face d'un petit enfant et puis d'essayer de l'amener sur le bon chemin.
Erika, quels sont vos projets maintenant?
Mes projets sont toujours dans le ski. On a un magnifique centre permanent au Diableret où on espère de pouvoir organiser plein de belles soirées avec des entreprises et puis continuer à faire skier les enfants.
Sport Matin avec alpha.ch, le portail d'emploi pour cadres et spécialistes.
5h09, la première, les petits matins. Merci d'être avec nous. Learning Art, en anglais. Learning Art, c'est une fondation qui est basée à Chèbre, dans la région lausannoise. Grâce à la location d'œuvres d'art provenant de collections privées, Learning Art soutient les jeunes artistes en formation. Alors, si vous êtes amateur d'art, louez des œuvres. Et si vous êtes propriétaire d'art, eh bien, prêtez des œuvres. Laurence Villot, bonjour.
Bonjour.
Laurence Villot, vous êtes membre de l'agence de communication Yana.com et vous êtes chargée de communication de la fondation Learning Art pour le soutien donc des jeunes artistes. A priori, la communication, c'était pas votre tasse de thé. Hein. Vous avez fait des études de lettres, assez brillantes d'ailleurs, semble-t-il.
Ben, c'est vrai que je suis un peu arrivée dans la communication par hasard après mes études. Mais en fait, très vite, ça m'a beaucoup plu et... Actuellement, je travaille comme chef de projet pour la fondation Learning Art et c'est vraiment un domaine passionnant.
Alors, vous travaillez d'abord pour l'agence de communication Yana.com. Drôle de nom, dites-moi, pour une agence de communication.
Oui.
Agence de communication spécialisée dans l'audiovisuel, hein, je crois.
Oui, tout à fait.
Alors, drôle de nom, je reviens à cette question, Yana.com.
Alors, en fait, ça veut dire... ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire « il y en a point comme nous », »,« il y en a point comme vous », »,« il y en a point comme tout le monde ». Ça montre que chacun est différent et que, ben, au niveau de la communication aussi, qu'il y a des milliers de façons de communiquer des idées ou des projets.
Alors, « il y en a point comme », petite équipe mais très soudée, je crois.
Oui, tout à fait.
Et très imaginative.
Donc, on travaille essentiellement dans l'audiovisuel. On produit des films publicitaires ou des films pour des artistes. On produit aussi des bons de son, des flyers et tout ce qui est autour de la communication artistique.
Alors, votre pôle d'intérêt principal à « il y en a point comme », c'est précisément le monde des arts, le monde de la création.
Oui, tout à fait.
Alors, en ce qui vous concerne, vous le disiez, vous êtes actuellement chargé aussi de la communication de cette fondation Learning Art. Alors, vous allez nous présenter un petit peu cette fondation. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle André Félix et dont le père... je me trompe de génération. Elle a été fondée par un monsieur, je recommence, qui s'appelle Laurent Félix, dont le père André était industriel et sculpteur.
Oui, tout à fait. Alors, la Fondation Learning Art a été créée en août 2011 par Laurent Félix, à la mémoire de son père, qui était un sculpteur et industriel vaudois. Et en fait, cette fondation a une longue histoire. Elle a commencé, en fait, l'histoire de cette fondation a commencé en novembre 2010 par la publication d'un livre qui présente les sculptures d'André Félix. Donc, son fils, Laurent, a voulu redonner une seconde vie aux œuvres de son père par la publication d'un livre qui a été suivi par une exposition au Centre Général Guizon qui a lieu actuellement.
Et le Centre Général Guizon, c'est Appuyé.
Oui, tout à fait.
Il faut bien le préciser parce que on ne sait pas forcément où est le Centre Général Guizon.
C'est vrai, tout à fait. Donc cette exposition se termine le 30 octobre. Donc si vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est le moment, c'est magnifique. Il y a des œuvres dans les jardins et aussi au foyer. Et en fait, parallèlement, donc Laurent Félix a eu l'idée de créer cette fondation qui propose de la location d'œuvres d'art. Pour l'instant, seules les œuvres d'André Félix sont allouées, mais on espère vraiment et on compte sur tout le monde pour nous prêter des œuvres. Donc ça peut être soit des artistes qui ont envie de proposer des œuvres en l'occasion pour se faire connaître, ou des particuliers qui ont hérité d'une collection d'art et qui ont envie de remettre ces œuvres en circulation. Sans devoir les vendre.
Alors, on va reparler naturellement de ce concept qui est assez novateur, qui nous vient des États-Unis. Parce que ça, j'ai cru comprendre que ce concept existe déjà aux États-Unis, c'est-à-dire louer des œuvres d'art pour réunir des fonds pour des œuvres, hein, ou simplement pour, dans votre cas, soutenir des jeunes artistes.
Oui.
Avant cela, parlons un petit peu de ce travail d'André Félix, donc qui a laissé en héritage à son fils un patrimoine artistique. C'est quoi ces sculptures?
Alors,
question un peu naïve peut-être.
Donc c'est vrai que André Félix a laissé des dizaines d'œuvres d'art à sa famille et à la base en fait il est serrurier de formation. Donc toute sa vie il a travaillé le métal, il a fondé Félix Construction SA et par la suite en fait il s'est tourné vers sa passion première qui était la sculpture. Et il a produit des dizaines de sculptures en métal, en aluminium, en acier. Il a aussi fait beaucoup de tableaux en aluminium thermolaqué. Et
donc, il a laissé une grande quantité d'œuvres d'art.
Oui.
Et alors, je sais que c'est difficile hein, de décrire un petit peu le style en radio, mais ça ressemble à quoi, vous qui les avez vues?
Alors, il y a toute une partie de sculptures qui sont monumentales, qui sont donc exposées dans les jardins du Centre Général Guizon. C'est des sculptures en aluminium ou en acier de grande taille, de couleurs vives. Il y en a des rouges, des jaunes ou des couleurs acier. Et
mais ça c'est de l'art
non,
abstrait
non,
ou
c'est
ça représente
c'est de l'abstrait. C'est tout à fait, tout est voilà. Abstrait en fait.
Pour faire une comparaison qui n'est pas raison, mais ça ressemble par exemple un peu à du tingli avec le mouvement en moins.
Non.
Non, pas vraiment. D'accord. Alors bon, c'est de l'art non figuratif.
Oui.
Donc ce sont des objets qui peuvent naturellement aller chez des particuliers pour autant qu'ils aient de la place, mais disons pour les œuvres les plus massives, elles sont davantage destinées, on dira, à des entreprises, à des banques ou à des lieux publics.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi toute une série de tableaux, en fait, qui représentent des profils. Car André Félix, avant de se tourner vers la sculpture, a créé des dizaines de profils de portes brevetées. Et on retrouve, en fait...
Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Des dizaines de profils de...
En fait, il a déposé des dizaines de profils, en fait, pour des profils en aluminium, des profils de serrures de portes.
Ah,
en fait.
D'accord. Oui, oui. Non, parce que lorsqu'on songe à profil, ben, on songe à un visage, naturellement.
Oui, c'est vrai.
Il s'agit pas de profil
non,
de,
alors absolument
humain,
pas.
Là. Il s'agit vraiment de profil de portes ou de
oui,
serrures.
Oui.
Ça, c'est curieux. mais c'est beau.
Oui, c'est très beau. Et c'est vrai que c'est un art qui, enfin, si on regarde l'évolution de son art, au fil des années, c'est devenu de plus en plus minimal. Mmh. Et il a essayé de créer le plus d'émotions possible avec le moins, en fait, de matière. Ouais. Et
c'est vrai que c'est difficile
de
décrire quelque chose d'aussi complexe en radio, mais enfin, on commence un petit peu à imaginer. Et puis, André Félix, donc serrurier, industriel, artiste, qui a laissé ce patrimoine extraordinaire à son fils, qui continue dans la serrurerie, ou le fils Laurent, qui a donc créé cette fondation.
Oui, alors lui, en fait, il dirige... BIF ingénieur à Lausanne,
ouais.
Qui est spécialisé dans les fenêtres et les façades, donc toujours dans la création de profils.
Bah écoutez, la serrure mène à tout, hein, de toute façon. Comme Louis XVI, dont on sait qu'il a fini sur l'échafaud, le pauvre, mais qui était aussi un serrurier amateur très habile, paraît-il. Il est 5h18, à l'écoute de la première.
Pourquoi pas revenir à ces petits jours de grande chance, mâcher le bleu des souvenirs que l'on relance. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face, tant pis pour l'agonie des mots qui passent. Pourquoi pas refaire le troc des jours que tu m'as donné, glisser dans les remous de la grande traversée. Pourquoi pas refaire encore la moisson de nos misères, l'humour aux lèvres collé au rebord de nos verres. Pourquoi pas chanter plus fort que le saboteur qui est en soi, bannir la peur de cette chaleur au bout des doigts. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face, tant pis pour l'agonie des mots qui passent. Aimer à mort, d'accord, mais surtout bien aimer d'abord. Si on valait de l'or, alors faut essayer encore. Aimer à mort, d'accord, mais surtout bien aimer d'abord.
Si on valait de l'or, alors faut essayer encore, allez. Pourquoi pas foncer en cœur et faire fi de nos impasses, plonger du bord, et puis quoi si on bat la tasse. Pourquoi pas baisser les bras pour enfin pouvoir les tendre, tomber cette fois et se relever sans attendre. Pourquoi pas tomber d'accord pour encore tomber des nues, se forcer fort de tout ignorer de l'issue. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face, tant pis pour l'agonie des mots qui passent. Quoi qu'on y fasse.
Voilà, c'était Frédéric Recrozio, pourquoi pas. Ben, je vous signale que Frédéric Recrozio sera en session Paradiso le jeudi 27 octobre. Donc, jeudi 27 octobre, bien, ben, je me souviens plus, ça doit être la semaine prochaine, ça, le jeudi 27 octobre. Exceptionnellement, de 19h à 21h, avec donc Frédéric Recrozio, Bastien Becker, Onésia Rittner, Jaylina et Technicolor Orchestra. Le concert est gratuit, il sera donc ouvert au public. Réservation obligatoire cependant au 058-236-16-21, le 058-236-16-21. Voilà, je répète le téléphone pour que vous puissiez le noter, mais inutile d'appeler dès maintenant, de toute façon nos standards, ils sont fermés jusqu'à 8h. Donc, session Paradiso, jeudi 27 octobre, Frédéric Recrozio, c'est ouvert au public. Il est 5h21.
Les petits matins.
Alors théoriquement, nous devrions être en décalage horaire avec Lomé au Togo, mais apparemment nous avons un petit problème de communication avec le Togo, ça arrive. Hein. Donc nous allons attendre, peut-être trouverons-nous notre interlocutrice, notre correspondante à Lomé, Christelle Mensah, tout à l'heure. Sinon, eh bien, on va continuer notre conversation, Laurence Villot. Je vous redis bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Laurence Villot, donc membre de l'agence de communication yana.com, chargée de communication de la fondation Learning Art pour le soutien des jeunes artistes. Cette fondation est basée à Chèbre, donc dans le canton de Vaud. Alors, que dit le patron de cette fondation? Il nous dit la chose suivante. Vous avez hérité d'un collectionneur d'art ou d'un artiste, mais vous ne savez pas quoi faire avec toutes ces œuvres. Alors, ne prenez pas le risque de les entreposer dans un grenier ou une cave, ça serait vraiment dommage. Remettez ces créations en circulation, prêtez vos œuvres à la fondation Learning Art et soutenez avec ce geste la création de demain. Beau programme.
Tout à fait.
Donc, en quelque sorte, monsieur Laurent Félix, qui a créé cette fondation, bah, il avait un stock d'œuvres d'art qui lui venait de son père, donc il les loue. Oui. Et puis, il appelle aussi les autres artistes, les autres collectionneurs à lui remettre, à lui confier les œuvres d'art qui sont stockées puis qui sont inutiles, loin du regard du monde, pour les louer et en tirer un profit, au profit précisément des jeunes artistes.
Oui, absolument. Alors, ben c'est vrai que en prêtant des œuvres d'art, ça permet de les remettre en circulation, de leur donner une seconde vie, de les faire découvrir au public, et sans pour autant les vendre. Donc ça peut être très intéressant pour des personnes de nous prêter leurs œuvres, et parallèlement aussi on recherche des personnes qui seraient prêtes à louer des œuvres d'art, et là aussi c'est vraiment un processus gagnant-gagnant, car pour par exemple des sociétés qui tout à coup doivent redécorer leur bureau ou des privés qui veulent apporter une touche personnelle à une pièce, c'est une excellente solution, car chaque année on peut changer d'œuvre.
C'est vrai, on peut s'amuser à faire un petit tournus, comme on dit.
Oui.
Mais cela dit, ne prenez-vous pas, comment dire, un petit risque tout de même, parce que bon, peut-être se trouvera-t-il un certain nombre de gens qui se considèrent comme des artistes, par exemple des peintres du dimanche. Ne soyons pas méchants avec les peintres du dimanche, puis qui viendront à la fondation, puis qui vous proposeront, je le dis avec un petit sourire en coin, des croûtes.
Oui, alors évidemment, ben, ça peut arriver, mais c'est vrai que la fondation est ouverte à tout le monde, et c'est le comité de direction qui choisit les œuvres.
Donc il y a quand même une sélection.
Oui, tout à fait, quand
on
même.
On ne va pas vous remettre n'importe quelle croûte ou non. N'importe quelle. Mais bon, ça reste quelque chose de subjectif, hein, apprécier une œuvre d'art.
Absolument.
Ça reste quelque chose de subjectif. D'un côté, donc, vous faites appel aux gens qui sont soit des artistes, soit des collectionneurs pour vous confier des œuvres d'art.
Oui.
Et puis de l'autre, vous invitez les particuliers, les fonds, les entreprises, les banques par exemple. On sait que les banques sont très friandes d'œuvres d'art pour leurs couloirs et leurs espaces d'accueil. Et donc, oui, je reçois un petit message. Nous avons réussi à joindre notre correspondante. On va interrompre ici, si vous voulez bien, Laurence Villot. On va reprendre après le journal.
Pas de problème.
Car nous sommes en ligne. Effectivement, nous avons retrouvé Christelle Mensa à Lomé, au Togo. Bonjour Christelle Mensa.
Bonjour Georges, bonjour à tous.
Ben, on est heureux de vous retrouver. Donc, on va parler de la rentrée scolaire au Togo, rentrée scolaire qui a eu lieu il y a environ 2 semaines, après un mois de report suite à une décision du gouvernement. Et quelques jours avant cette rentrée des classes, les enseignants sont montés au créneau menaçant de faire grève afin de rappeler leurs nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La preuve qu'il n'y a pas qu'ici en Europe et ici en Suisse où les enseignants se plaignent de leur situation, au Togo aussi. Quelle est la situation qui prévalait il y a 2 semaines à Lomé et dans le Togo, au Togo en général, Christelle Mensa?
Alors Georges, il y a 2 semaines, si vous voulez, les enseignants commençaient tout juste à obtenir gain de cause concernant l'une de leurs revendications, à savoir le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire qui datent de 1999 et de 2000 et qui n'ont pas été payés depuis à peu près donc plus de 10 ans. Et ces versements sont intervenus donc une semaine avant la rentrée des classes qui a eu lieu le lundi 3 octobre. Alors bien qu'ils aient été soulagés, les enseignants ont quand même maintenu leur mot d'ordre de grève puisqu'ils estimaient que cette histoire d'arriéré de salaire c'était un dû et que leurs nombreuses autres revendications elles n'étaient toujours pas évoquées. Et quand ils ont commencé à toucher ces 2 mois de salaire, il y a quand même eu un petit souci qu'ils ont soulevé concernant les enseignants des lycées. Eux n'ont obtenu que 1 mois sur 2 et à l'heure actuelle ce souci n'est toujours pas réglé. Donc suite à cela, il y a eu des négociations avec des membres du gouvernement et 5 fédérations syndicales d'enseignants, et ce qui a permis en fait d'avoir des débats quand même assez sérieux et des discussions sincères, et ce qui a un peu soulagé la tension qui prévalait à l'époque, Georges.
Ces difficultés, Christelle Mensa, quelles sont-elles ?
Elles sont nombreuses, Georges. Par exemple, il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, le gouvernement a décrété la gratuité de l'école primaire, ce qui a amené, si vous voulez, un sureffectif des élèves, ce qui entraîne aussi un manque de place dans les écoles et un manque de salles aussi. Il y a peu de salles de classe. Il y a aussi le traitement des professeurs qui pose problème selon ces derniers. Ils parlent de salaires trop bas, de demandes de primes supplémentaires, comme par exemple la prime de bibliothèque ou la prime d'éloignement du domicile. Il y a aussi la pauvreté des moyens d'enseignement qui est pointée du doigt. Par exemple, certains professeurs et la plupart n'ont pas accès à Internet, ont peu de formations continues qu'on leur propose, et il y a aussi peu de matériel pédagogique, comme par exemple des livres, tout simplement, des livres pour les élèves et même pour eux. Et il y a aussi peu de bibliothèques dans les établissements, Georges.
Alors dites-moi, Christelle Mensa, une nouvelle grève est-elle envisagée par les syndicats togolais d'enseignants ou pas ?
En tout cas, pas dans l'immédiat, puisqu'ils m'ont assuré hier que les négociations avec le gouvernement étaient toujours en cours. Donc, elles sont en cours donc depuis plus de 2 semaines. Et selon M. Sodja, qui est le secrétaire général adjoint chargé de l'enseignement secondaire de la FESEN, qui est un des syndicats assez importants, la FESEN, c'est la Fédération des syndicats de l'enseignement national, les responsables ont voté la prolongation de la suspension de la grève pour le moment. Mais il m'a assuré, ce responsable, si vous voulez, qu'il donnait au gouvernement jusqu'à la fin de ce mois d'octobre pour conclure des négociations éventuelles, faute de quoi il menace toujours de faire grève, Georges.
Eh bien, je vous remercie de cet éclairage, Christelle Mensa. C'est l'occasion de rappeler que, oui, les enseignants rencontrent des problèmes ici en Suisse, en France, on l'a vu récemment et on le voit encore, mais l'Afrique aussi connaît de graves problèmes dans l'enseignement. On vous remercie, Christelle Mensa. On vous souhaite une très bonne nuit du côté de Lomé, au Togo. Lomé, capitale même du Togo. Merci à vous et bonne nuit, Christelle Mensa. Il est 5h29.
Chaque écran a son histoire à la 17e édition du Festival international du film de Genève, Cinéma Tous Écrans. Longs métrages, séries policières, séries historiques, web-séries, ciné-concerts, films musicaux, fiction interactive. Si les goûts et les genres sont multiples, les écrans le sont aussi. Plus de 120 films à découvrir, trouvez les vôtres sur www.cinéma-tous-écran.com. Cinéma Tous Écrans, du 4 au 10 novembre 2011 à Genève, à vivre, à voir et à entendre sur La Première et TSR1 qui en couvriront les grands moments.
5h30 et 15 secondes, le journal avec Frédéric Philippin.
Bani Walid est désormais entre les mains du nouveau gouvernement libyen. Le Conseil national de transition annonce que la ville a été totalement libérée. Prochaine étape, Sirte, le dernier bastion où les fidèles de Muammar Kadhafi résistent toujours. Une correspondance de Marine Olivesi.
Les forces du Conseil national de transition avaient lancé dimanche soir une double attaque par le nord et le sud de la ville. Ces unités se sont rejointes hier en milieu de journée au centre de Bani Walid. Cette offensive semble donc conclure un mois et demi de combats désordonnés et de négociations infructueuses dans cette enclave kadhafiste, mais la prudence reste de mise. Si un commandant parle d'une libération totale de la ville, d'autres ont mentionné la présence de poches de résistance dans quelques secteurs. Seule une trentaine de loyalistes auraient été arrêtés hier, ce qui laisse à supposer que la plupart se cachent et pourraient reprendre les armes. Un scénario du type Sirte n'est donc pas à écarter. Les événements récents dans la ville natale du colonel Kadhafi démontrent que l'arrivée des forces pro-CNT, même au centre-ville, ne signifie pas nécessairement l'arrêt des combats. En outre, la présence des troupes pro-CNT à Bani Walid risque de brutalement décroître dans les jours à venir. Certaines des unités qui ont participé à l'offensive disent maintenant vouloir se diriger vers Sirte. Cela pourrait créer un vide que les derniers loyalistes à Bani Walid s'empresseraient probablement de combler. À Sirte, des snipers sont ainsi réapparus ces derniers jours dans des quartiers qui avaient pourtant été ratissés la semaine dernière et qui étaient considérés comme sûrs. Marine Olivesi pour la radio suisse romande, Misrata.
Et les nouvelles autorités libyennes attendent désormais la chute de Sirte pour proclamer la libération totale du pays et former un gouvernement chargé de gérer la transition. Ban Ki-moon hausse le ton contre le régime de Damas. Le secrétaire général des Nations Unies somme désormais le président syrien Bachar al-Assad de stopper les tueries dans le pays, soulignant que la mort de 3000 civils depuis le début des affrontements à la mi-mars est totalement inacceptable. Pour la seule journée de lundi, 44 personnes ont été tuées en Syrie. La grogne des marins grecs, aucun bateau n'a quitté ou rallié le port du Pirée près d'Athènes hier lundi. Une grève générale est prévue pour mercredi et jeudi en signe de protestation contre les mesures d'austérité voulues par le gouvernement. Les agents du fisc, les fonctionnaires des finances ou encore les douaniers ont déjà débrayé. De l'autre côté de l'Atlantique, le mouvement Occupant Wall Street fête son premier mois d'existence. Des dizaines de personnes campent depuis 30 jours dans un square au cœur du quartier financier de Manhattan. Le mouvement bénéficie désormais du soutien de centaines d'écrivains et d'auteurs qui ont signé une pétition sur Internet. Parmi eux, Salman Rushdie. Plus de 400 collaborateurs du personnel de la Confédération ont manifesté hier à Berne. Ils demandent une hausse des salaires de 2% et l'arrêt des suppressions de postes au sein de l'administration. Les manifestants ont dénoncé le projet du président de l'UDC, Tony Brunner, qui souhaite réduire de 20% le personnel de la Confédération. Les Fribourgeois ne voteront pas sur le sens unique de l'avenue de la gare. Le conseil général de la ville a invalidé hier soir l'initiative plus de fluidité, moins de sens unique par 37 voix contre 33. Argument mis en avant, le conseil général n'est pas compétent pour statuer sur la circulation routière. La salle du grand conseil était divisée en deux pour ce vote et c'est la gauche qui l'a emporté. Elle a suivi le président du conseil général, le vert Olivier Collot. On l'écoute.
Je suis satisfait que le Conseil général ait suivi la solution adoptée par la majorité du bureau, qui est à mon avis la solution juridique correcte à cette question.
Quand bien même n'aurait-il pas fallu faire voter le peuple, trouver une solution pour que le peuple puisse voter sur cette question de la fluidité du trafic dans la ville de Fribourg?
Alors la solution pour faire voter le peuple sur cette question ne réside pas dans une initiative communale, mais dans un changement de la loi sur les communes. Concrètement, il faut donner plus de pouvoir au Conseil général dans les communes et ainsi le peuple pourra se prononcer sur plus de questions. Nous avons essayé à plusieurs reprises de donner plus de compétences aux conseils généraux et à la population au Grand Conseil. Et ces propositions ont été systématiquement balayées par la majorité bourgeoise du Grand Conseil.
Des propos recueillis par Muriel Balaman et les autres auteurs de l'initiative ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront recours devant le tribunal cantonal. Football, l'Union européenne de football réfléchit à un retour de FC Sion en Europa League et met désormais sur la table plusieurs scénarios. L'UEFA pose toutefois ses conditions. Le tribunal arbitral du sport devra se prononcer sur le fond de l'affaire. Et toujours dans ce feuilleton, Michel Platini, le grand boss de l'Union européenne de foot, sera auditionné demain par le tribunal cantonal vaudois. La Fédération internationale de football est inquiète. La Coupe du Monde 2014 au Brésil est-elle menacée? Un nouveau scandale de corruption met en cause le ministre brésilien des Sports, accusé d'avoir détourné des millions de francs. Autre source d'inquiétude de l'avancement et le financement des travaux. Précision, Pierre Bracci.
Nouveau coup dur pour la présidente Dilma Rousseff. Alors que quatre de ses ministres ont déjà dû démissionner ces trois derniers mois pour cause de corruption, un cinquième est mis sur la sellette depuis samedi pour les mêmes raisons. Cette fois, c'est l'image du Brésil dans le monde entier qui est mise à mal puisqu'il s'agit du tout-puissant ministre des Sports, responsable de la mise en place de la Coupe du Monde de football 2014. Une accusation qui inquiète la FIFA, une chute de ministre pourrait en effet mettre en péril les négociations sur la désignation des stades du Mondial et sur la répartition des charges et des bénéfices liés à l'événement. Et pendant ce temps, les jours passent, la plupart des travaux n'ont pas encore commencé et aucune estimation claire du budget n'a été publiée. Certains parlent déjà de 30% d'augmentation par rapport au chiffre de 15 milliards de francs avancé par Lula en janvier 2010, alors que l'Association brésilienne des infrastructures parle, elle, de 65 milliards. L'équipe du Brésil a donc une raison supplémentaire pour gagner sa Coupe du Monde, rendre la facture un peu moins difficile à avaler aux Brésiliens. Pierre Bracci, Radio Suisse Romande, Buenos Aires.
Et puis le parcours du Tour de France cycliste 2012 sera dévoilé ce matin à Paris. Une 99e édition qui fera halte en Suisse. La 8e étape reliera le dimanche 8 juillet Belfort à Port-en-Truy sur 154 km. Et c'est une première pour le Jura.
Oui, un parcours dont on connaît pratiquement déjà tout le détail puisqu'il a été révélé par erreur sur le site informatique du Tour de France il y a déjà deux semaines. Pendant deux bonnes heures.
Mais oui, les journalistes ont eu le temps de le recopier.
Absolument. Merci beaucoup. C'était le journal de Frédéric Philippin. La météo maintenant avec Sébastien Dupéret.
Le temps s'annonce bien ensoleillé et doux aujourd'hui avec des températures qui grimperont jusqu'à 19 degrés. Ce matin toutefois, quelques brouillards retarderont l'arrivée du soleil jusqu'à la mi-journée. Au-dessus de 800 mètres, dans le Chablais et en Valais, le soleil s'imposera plus rapidement. Ce soir, des passages nuageux arriveront par l'ouest. Ils donneront des précipitations en seconde partie de nuit. Elles s'intensifieront demain dans une atmosphère nettement plus fraîche. Les températures ne dépasseront pas 12 degrés et les flocons approcheront des 1000 mètres en soirée. Jeudi, des éclaircies se développeront en pleine malgré un temps encore changeant. Dans les Alpes et les Préalpes, des averses éparses continueront de tomber sous forme de neige jusqu'à 800 mètres. Le retour du soleil est prévu pour vendredi.
Notre invitée, l'invitée des petits matins, elle s'appelle Laurence Villot, elle est membre de l'agence de communication Yana.com, agence de communication audiovisuelle. Elle est aussi, et surtout pour nous ce matin, chargée de communication de la fondation Learning Art pour le soutien des jeunes artistes.
Les petits matins, Georges Pop.
Alors, Learning Art, on va le répéter pour ceux qui nous rejoignent maintenant, et ils sont nombreux, hein, nombreuses. Learning Art est une fondation installée près de Chèvres, donc dans le canton de Vaud. Grâce à la location d'œuvres d'art provenant de collections privées, Learning Art soutient les jeunes artistes en formation. Vous êtes amateur d'art, par exemple, eh bien louez des œuvres. Et si vous êtes propriétaire et que ces œuvres sont stockées dans une cave, c'est un peu dommage. Alors, prêtez ces œuvres à la fondation Learning Art. On le disait, Laurence Villot, c'est un concept qui a été introduit ici en Suisse romande par monsieur Laurent Félix, fils d'André Félix, serrurier, industriel et artiste, un grand sculpteur. Et puis, ma foi, c'est ce concept qui nous vient des États-Unis a été introduit pour la première fois ici en Suisse romande par monsieur Laurent Félix.
Oui, absolument. Alors, c'est un concept qui vient d'outre-Atlantique. Lorsque Laurent Félix a décidé de mettre en place cette fondation, on s'est rendu compte que non seulement ce concept existait déjà, mais surtout qu'il avait énormément de succès, tout particulièrement au Canada, où via un site web, Artbank, on peut louer énormément d'œuvres d'art. Et c'est vrai que ce site propose seulement en fait à des entreprises. mais ça a énormément de succès et on espère qu'ici en Suisse romande, ça pourra avoir le même succès.
Donc moi par exemple, je suis un particulier, j'ai un magnifique salon, hypothèse de travail, oui. Hein, je ne dis pas que j'ai un magnifique salon, et puis je souhaite y introduire une belle œuvre d'art, seulement voilà, je n'ai pas les moyens. Alors je m'adresse à la fondation Learning Art, puis je vais faire mes courses en quelque sorte. Je choisis parmi les articles proposés celui qui me plaît le mieux, puis je peux le louer pour quoi ? Une année, deux ans ?
Alors vous pouvez le louer pour autant que vous voulez, en fait c'est une année minimum. Et après, vous pouvez renouveler votre contrat. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que on peut vraiment louer des œuvres d'art à modique somme. Donc, à partir de 200 francs par année, on peut déjà louer un tableau ou une sculpture.
Un tableau et une sculpture d'un artiste reconnu.
Oui.
Oui. Non, c'est vrai que c'est pas cher, 200 francs par année. Et puis on peut changer de tableau. Et
chaque
puis
année.
J'imagine que pour les sculptures monumentales créées par André Félix, car il en a créé un certain nombre de
oui.
ces sculptures monumentales.
Il y en a une douzaine environ. Mmh. Alors là, c'est nettement plus cher, mais ça reste des prix tout à fait abordables.
Voilà. Donc, par exemple, pour les banques, pour une entreprise, etc., ce sont des objets qui supportent le plein air, hein, je crois.
Oui, absolument. Mmh. Et ces objets sont actuellement exposés dans les jardins du Centre Général Guizon. Ils ont passé tout l'été dehors, donc ils supportent très bien...
Alors, précisément, puisque vous me parlez de cette exposition, Laurence Villot, le finissage de l'exposition, je dois vous avouer que je suis inculte. Je connaissais le terme de vernissage, mais c'est vrai que le terme de finissage ne m'était pas très familier. Finissage de l'exposition André Félix, 40 ans de création, donc le jeudi 27 octobre 2011 à 18h au Centre Général Guizan à Puyi. Je crois que cette exposition a connu un succès assez vif.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de personnes, en fait, qui sont venues admirer ces sculptures au Centre Général Guizan. Et l'exposition se termine le 30 octobre. Donc, c'est vraiment le dernier moment de venir admirer ces sculptures. Il y en a toute une partie qui sont dans les jardins et une autre partie qui se trouve dans le foyer du centre. Le foyer du centre n'est pas ouvert tout le temps, mais... s'il y a des conférences ou si vous voyez qu'il est ouvert, vous pouvez sans autre aller les admirer.
Mmh. Donc, exposition des œuvres d'André Félix. On va rappeler la saga assez extraordinaire de ce monsieur, André Félix. Donc, André Félix, industriel, serrurier, et puis artiste.
Sculpteur.
Il a sculpteur, oui. Il a créé un nombre absolument incalculable d'œuvres, notamment des sculptures, qui constituent un petit peu le fonds de commerce. Hein.
Oui,
c'est
tout
pas
à
très
fait.
Élégant de le dire ainsi.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est un peu le fonds de commerce de la
base de la fondation.
Alors, la fondation aujourd'hui est dirigée par Laurent Félix,
oui.
Donc fils d'André Félix. Et que nous dit-il, ce monsieur ? Eh bien, il nous dit, si vous avez hérité d'un collectionneur d'art ou d'un artiste, mais que vous ne savez pas quoi faire avec toutes ces œuvres, eh bien, ce serait dommage de les entreposer dans un grenier ou dans une cave. Confiez-les à Learning Art, remettez ces créations en circulation, prêtez vos œuvres à la fondation Learning Art et soutenez avec ce geste la création de demain. Alors, on a bien compris le processus d'entreposage et de location. Ensuite, comment faites-vous pour soutenir les artistes de demain ?
Alors, tout d'abord, il faut que l'étudiant soit admis dans une école d'art. Et dès le moment où il est admis dans une école, il peut faire une demande de bourse auprès de la fondation. Et là aussi, le comité de direction de la fondation va évaluer le dossier et choisir quel étudiant il va soutenir.
Alors, j'imagine, comme vous venez de le dire, qu'il a quand même une sélection. Donc,
oui,
qui
absolument.
Est-ce qui compose le jury ? Ça se passe comment ? Parce qu'on a beaucoup de télé-réalités hein, actuellement où on voit des jeunes artistes, notamment dans le domaine de la chanson, qui sont, qui sont mis en scène de manière assez criarde en général, assez colorée, assez amusante aussi pour certains. Ça se passe pas comme ça. Là, c'est beaucoup plus discret, j'imagine, comme processus.
Oui, bien sûr. Donc en fait, le comité de direction se compose de Laurent Félix et d'autres personnes qui sont très intéressées par l'art et qui soutiennent aussi la Fondation.
Vous aussi d'ailleurs, vous êtes intéressée par l'art. On rappellera que vous travaillez au sein d'une agence qui s'appelle l'agence yana.com.
Oui.
Vous êtes spécialisée dans l'audiovisuel et vous travaillez beaucoup avec le monde artistique.
Oui, absolument. Alors, on met en place des expositions d'art et on produit aussi des films sur des artistes. Mmh. Et donc là, cet été, on a mis en place l'exposition André Félix, 40 ans de création.
Un gros travail, parce que là aussi, il y a des sculptures assez colossales. Vous avez fait venir des grues.
Oui, alors on a dû les déménager avec des grues. C'est vrai qu'en plus, elles sont en acier. Mmh. Elles étaient extrêmement lourdes. Et donc on a mis cette exposition en place cet été. En avril, on a mis une autre exposition en place sur l'artiste Armand Avril, qui est un assembleur en fait français. Il fait des assemblages à partir d'objets récupérés. Mmh. Et c'est vrai qu'on a d'autres projets d'exposition assez prochainement en fait.
Lorsque vous parlez de cet assembleur français, c'est aussi quelqu'un qui fait des objets assez massifs, assez importants en taille.
Non, en fait, c'est plus des tableaux qui sont...
Donc c'est plutôt pour l'intérieur.
Oui, c'est seulement pour l'intérieur. Parce que c'est vrai, comme c'est du bois peint, c'est uniquement pour l'intérieur.
Et puis il y a ce livre que vous avez publié précisément sur André Félix, 40 ans de création. Le génie industriel au service de l'art, ça aussi c'est un travail de yana.com.
Oui.
On va parler du livre tout à l'heure avec vos invités au téléphone. Donc on rappellera que le finissage de l'exposition André Félix 40 ans de création, c'est le jeudi 27 octobre 2011 à 18h au Centre Général Guizan à Puy. C'est en plein air, partiellement.
Oui, mais le finissage aura lieu au foyer.
D'accord. Et puis André Félix, on le disait en première demi-heure, un destin assez fascinant puisque cet homme industriel qui a fait fortune dans la serrurerie notamment, eh bien s'est consacré à l'art. Et puis aujourd'hui, c'est son fils qui a pris le relais, Laurent Félix. Laurent Félix qui a donc créé cette fondation Learning Art. Il est 5h46 à l'écoute de la première. Ce sont les petits matins. Notre invitée s'appelle Laurence Villot. Elle est membre de l'agence de communication yana.com, c'est vrai que c'est un nom assez rigolo, hein, yana.com, chargé de communication aussi de la fondation Learning Art pour le soutien des jeunes artistes. Solitude, red wine just.
crash or two. Give me something fun to do.
Something in the Water, quelque chose dans l'eau, de Brooke Fraser. Brooke Gabriel Fraser Lightwood, c'est son nom complet, né le 15 décembre 1983, m'apprend-on. C'est une chanteuse néo-zélandaise. Elle est notamment connue pour son troisième album Flags, ayant pour single phare Something in the Water, que nous venons d'entendre, et aussi pour être membre du groupe chrétien australien Hillsong. Il est 6h10.
Les petits matins.
Et à la demande de notre invité Laurence Villot, chargée de communication de la fondation Learning Art, nous faisons sonner notre réveil matin chez Madame Régine Buxtorf. Bonjour Madame Régine Buxtorf.
Bonjour Monsieur Georges Pop, bonjour Laurence.
Merci. Bonjour Régine.
Coup de fil matinal.
Rédactrice chez Eddy Press. Vous êtes aux côtés, je crois savoir, de Gilles Richter, qui lui est le directeur de l'agence Yana.com. Alors, nous allons parler d'un livre, hein, puisque nous avons parlé de cette fondation Learning Art qui prête des œuvres d'art, qui loue plutôt des œuvres d'art à des particuliers ou à des entreprises ou à des associations. Et les fonds ainsi réunis profitent à des jeunes artistes pour leur formation. Régine Buxtorf, vous avez écrit un livre, vous avez co-écrit un livre, c'est un travail de groupe, précisément sur André Félix, 40 ans de création, le génie industriel au service de l'art. C'est un personnage assez fascinant, hein, finalement, que cet André Félix, né en 1927 à Lausanne, mort en 2006, et qui a laissé un travail artistique qui, dites-vous, allie le génie industriel à la création.
Exactement, exactement. Ce qui est très étonnant avec André Félix, c'est que en fait, comme il est devenu serrurier un peu de par sa famille, eh bien, à un moment donné, il a voulu suivre des cours aux Beaux-Arts. Et puis à l'époque, c'est dans les années 40, c'était absolument pas tellement courant. Donc, il a été auditeur libre. Et aujourd'hui, avec la fondation et puis avec ce livre, c'est comme une boucle qui se boucle, puisque André est aujourd'hui, il va pouvoir sponsoriser d'une certaine façon des jeunes artistes. Et ce qu'il aurait lui voulu avoir à l'époque, hein, et donc il a fait une vie de serrurier, il a monté un empire industriel, il a eu le flair aussi avec l'aluminium dans les années 70, et puis ce qui lui a permis finalement parallèlement à son travail industriel qu'il n'a pratiquement jamais quitté, je crois jusqu'au bout, ce qui lui a permis de faire ce travail artistique, hein, et qui est intimement lié à son travail d'industriel, puisque autant dans les techniques. Donc, par exemple, à un moment donné arrive le thermolaquage en industrie. Il va se mettre à faire des grandes œuvres thermolaquées, par exemple.
Donc, alors, dites-moi, Régine Buxtorf, oui, est-ce que vous connaissiez, vous, avant d'être sollicité pour contribuer à la rédaction et à la réalisation de ce livre, vous connaissiez la vie d'André Félix?
Alors, pas du tout. Je découvre ce personnage et puis j'ai trouvé ça passionnant. Pour plusieurs raisons, c'est que d'abord, j'ai trouvé que c'est toujours intéressant de creuser la vie de quelqu'un. On découvre un tas de choses. Et puis, ce qui était passionnant, c'est de voir comment, finalement, quelqu'un, à force d'insister, arrive à une production aussi importante. Donc,
Et à réaliser un rêve, hein, finalement, parce que ce
Exactement.
Monsieur qui était serrurier, à l'époque, c'est Exactement. Vrai que serrurier, c'était peut-être un métier un peu plus méprisé qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les serruriers sont considérés un peu comme des artisans, dirons-nous. Alors qu'à l'époque, on disait, que vient faire un serrurier dans le monde des arts?
Voilà, et en plus, c'est-à-dire c'est un serrurier qui a quand même réussi, c'est-à-dire qu'il a monté un empire, hein. Enfin un empire, Laurent, il m'en voudrait un peu de parler en termes d'empire, parce que, voilà, mais quand même, ils étaient 450 personnes employées au Félix Construction, et ça dans les années 70, avant la crise pétrolière, et donc, je veux dire, c'est un serrurier de la rue Maupas qui finit par faire un grand empire quand même assez important, en tout cas pour le canton de Vaud, qui finit aussi par travailler à l'étranger, dans le monde entier. Et qui, parallèlement à cela, commence à travailler le métal, parce que c'est vrai que dans les années 70, il y a, à un moment donné, il y a la crise pétrolière, il y a l'aluminium qui marche beaucoup moins bien. Et à ce moment-là, André, il se tourne vers l'art pour, comme une sorte d'exutoire, pour trouver une soupape, parce qu'il devait licencier la moitié de son entreprise. C'était extrêmement pénible. Et du coup, il se tourne vers l'art et il trouve là une sorte de soupape. Et c'est très intéressant parce que je trouve que c'est très humain et c'est très touchant. Moi, j'ai vraiment adoré découvrir ce personnage. Et je trouve aussi, si vous voulez, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que toute cette entreprise est issue du fils. Il y a la famille qui est très forte.
On va rappeler que le fils donc d'André Félix, Laurent, a créé cette fondation Learning Art, grâce à laquelle tout un chacun peut louer des œuvres d'art pour une année ou davantage, qu'elles soient petites ou grandes. Et tous ceux qui, collectionneurs ou artistes, souhaitent confier à Learning Art leurs travaux pour être loués et ainsi montrer et ainsi vivre en quelque sorte, eh bien, ils peuvent également le faire. Je vous remercie infiniment de cette intervention brève mais roborative pour l'esprit, Régine Buxdorf, et je vous souhaite une excellente journée.
Je voulais juste dire encore que le livre, il est actuellement en vente dans les librairies, donc ici à Lausanne. Et voilà.
Bien, on en a un certain nombre qu'on va offrir tout à l'heure. Voilà.
Super, magnifique, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
Située au cœur du continent européen, la Slovaquie est née en 1993. Son jeune âge ne l'empêche pas d'avoir une longue histoire derrière elle et une empreinte européenne. Cette semaine, le dromadaire sur l'épaule vous invite à découvrir les habitants de ce pays discret et rempli de créativité.
Là, dans la tour, en fait, il y a un restaurant très chic où tu montes, tu payes un prix énorme. Et après, quand tu y ressors, tu vas dans le centre pour bien manger encore.
Slovaquie, belle, petite, fière et européenne, c'est du 17 au 21 octobre à 14h sur la première et au gré de vos envies sur lapremière.ch.
Voilà, Laurence Villot, membre de l'agence de communication yana.com, ça me fait toujours rire, même après une heure, chargée de communication de la fondation Learning Art à Chèbre pour le soutien des jeunes artistes. On en a parlé pendant une heure. Je vous remercie, Laurence Villot.
Merci à vous.
D'être venue si tôt nous rejoindre pour nous parler de Learning Art. On vous souhaite une bonne continuation.
Merci, bonne journée.
Je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Les stéréos radio matinales. Je veux danser. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la caisse. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, charge la mort, laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter.
Jean-Louis Aubert, demain sera parfait. C'est lui qui le dit. Bonjour Simon Matédoré.
Bonjour Georges Pop.
Demain sera parfait, mais aujourd'hui aussi sera parfait.
Oh,
tend vers la perfection.
Exactement.
Oui.
Vous voyez qu'on est sorti du même moule, on dit les mêmes choses au même moment.
Oui, c'est ça.
Quelques livres à offrir à nos auditeurs, puisque nous avons parlé de la Fondation Learning Art. Eh bien, nous avons un certain nombre de livres à offrir, consacrés précisément et offerts par cette fondation. André Félix, 40 ans de création, des beaux textes, des belles photos. Donc, vous pouvez nous appeler pendant quelques minutes au 058 236 1801. 058 236 1801. Avec un peu de chance, vous pourrez décrocher l'un de ces beaux livres. Demain, Simon Matédoré, nous allons recevoir Monsieur François Erard, qui est directeur d'Agri Genève, donc Agri, agriculture, Genève, ça c'est facile. Ben un canton-ville, mais qui dispose aussi d'une agriculture et d'une viticulture très vivace, très dynamique. Nous allons parler de cela naturellement, cette cohabitation entre la ville et la campagne. Rats des villes, rats des champs, vivent ensemble en harmonie.
C'est
à Genève.
Quelle verve sans cesse renouvelée. Bon, ben à demain.
À demain.
Et bonne journée.
Infotrafic RSR
avec Café Kikodoro et son système à capsules.
Les conditions de circulation sont bonnes sur le réseau routier national. Les bandes brouillard qui se sont formées en plaine devraient en principe se dissiper dès la fin de matinée. Les trains sont remplacés par des bus entre Genève et La Plaine. Suite à un dérangement à la ligne de contact, veuillez compter avec une durée de voyage plus longue.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
La météo, Sébastien Dupéret.
Le temps s'annonce bien ensoleillé et doux aujourd'hui, avec des températures qui grimperont jusqu'à 19 degrés.